Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire. Ça va faire maintenant 3 ans. 3 ans de bulle d'histoire sur Art District Radio. Et aujourd'hui, je suis vraiment très très heureux de recevoir 2 éditeurs, Laurent Médikian et Frédéric Fourreau des éditions Patayo. Patayo, c'est un petit éditeur qui monte, on peut dire qu'il fait que des bouquins de qualité. Il n'y a rien acheté, pas une seule épluchure. Avant de parler des éditions Patayo et de 3 livres d'auteurs asiatiques, chinois, taïwanais, je vais vous poser la question, Laurent et Frédéric, question traditionnelle qui ouvre toutes les bulles d'histoire. Qui êtes-vous ? On commence par qui ? Par Laurent ? Laurent, vas-y, Laurent Médikian.
Je m'appelle Laurent Médikian, je suis né en 1965. Cette année-là, le premier satellite artificiel français est lancé dans l'espace et il s'appelle Astérix. Est-ce que ça a quelque chose à voir ou pas ? Mais en tout cas, moi, j'ai voulu apprendre à lire pour Astérix, pour pouvoir rigoler comme mon père rigolait à cette époque-là quand il le disait le soir alors que je m'endormais à ses côtés.
Pardon ?
Oui.
Non, vas-y, continue.
Et par la suite, je suis devenu critique de bande dessinée, comme par hasard. Et surtout, j'ai recherché à travers le monde d'autres Astérix, c'est-à-dire des personnages de bande dessinée qui étaient des ambassadeurs de leur culture, à travers qui une population entière pouvait se reconnaître. D'autres personnes pouvaient reconnaître cette population à travers ces personnages. Et il y en a plein dans le monde que l'on ignore complètement en France.
Oui, on va voir ça avec les auteurs dont on va parler aujourd'hui, qui sont des auteurs de la sphère sinophone, comme ça, s'ils ne sont pas tous chinois. Frédéric, et toi, qui es-tu ? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots d'où tu viens et où tu vas ?
Oui, alors Frédéric Fourreau, 52 ans, et je vis à Nantes. Enfin, puisqu'on est dans le domaine d'Astérix, moi je vais dire que je suis plutôt comme Obélix, c'est tombé dans la marmite, mais dans la marmite de l'édition, ça assez récemment, il y a 2 ans, j'ai sorti mes premiers livres avec Patayo Édition, maison d'édition de romans graphiques que j'ai créé, et voilà, on est parti pour une belle aventure.
Avant de rentrer dans le commentaire des albums, Frédéric, est-ce que tu peux nous décrire un peu quelle est la ligne éditoriale de Patayo ? Parce que c'est une petite maison d'édition, mais qui a une ligne éditoriale très affirmée.
Alors, Patayo, c'est un petit peu... Déjà, le nom, ça veut rien dire, mais en même temps, ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut y projeter toute l'imagination que l'on veut. Et moi, ce qui est important avec Patayo, c'est que ça soit paradoxalement, alors que l'on fait surtout du roman graphique, que ça soit le récit qui porte. La ligne éditoriale, c'est de se dire, on va chercher, farfouiller à travers le monde des auteurs, c'est ce que l'on fait avec des cases des noms des mondes. On va aussi donner la possibilité avec les petits Patayo de donner la chance à des auteurs qui vont pouvoir faire leur premier livre avec un format imposé, case par page, un récitatif, 92 cases, du noir et blanc. Et avec ça, chacun peut aller explorer l'extraordinaire dans l'ordinaire et offrir au lecteur son univers graphique, son univers onirique. Et chacun dans des directions qui leur sont propres. Et qui permettent en fait à cette petite collection de devenir une sorte de laboratoire graphique, laboratoire aussi. Je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser. Pour le moment, c'est plutôt des laboratoires de texte, mais j'espère qu'à terme, on arrive à des laboratoires littéraires aussi par rapport à ça, et de mixer un petit peu ça. Les cases des langues des mondes, on est plutôt dans une approche de beau livre. Ça, c'est un élément qui est très important. Ça, c'est de fait. Petit Patayo ne pouvait exister à mes yeux que si on avait un livre de très très belle qualité, cahier cousu, jaquette amovible, très belle impression, c'est-à-dire un livre qui en tant que tel puisse exister comme un petit bijou, un petit objet que l'on a plaisir à lire, à offrir ou à garder dans sa bibliothèque. Quelque part, on essaye d'avoir un contenu de qualité, mais un contenant aussi de qualité, un bel objet, un plaisir à feuilleter et à garder. et à ne pas jeter, en fait. C'est un peu ça.
Alors, on va parler de l'objet, parce que tu parles beaucoup d'objets. Et effectivement, là, j'ai les trois albums sous la main. C'est trois objets très différents. Là, c'est une question peut-être un peu pour Laurent. On a l'impression que quand des éditeurs européens s'emparent de cette littérature dessinée sinophone, ils font une attention encore plus grande à l'objet. Moi, je pensais aussi aux éditions Feuille, qui, dans des énormes coffrets, publiaient des albums en 30 petits volumes. Là, c'est un peu la même chose pour Patayo. Il y a une grande attention portée à la fabrication et à la forme.
Ben, c'est un peu logique, parce que certaines bandes dessinées d'Asie, et notamment les bandes dessinées de Chine populaire, qui pendant très longtemps se sont déclinées sous le format Lian Huan Hua, qui veut dire image enchaînée, donc qui sont des tout petits bouquins qui tiennent dans une poche de chemise, avec une image par page. Ceux-là ont une forme complètement, quasiment inconnue en Occident. Le fait de les réunir en coffret pour adapter une grande saga comme l'a fait les éditions Feuille, c'est courant en Chine. Ça se fait, ça se rencontre un peu partout. Il y a même des éditeurs, puisque Feuille avait produit les quatre grands romans chinois. Il y a même des éditeurs qui avaient fait les quatre grands romans chinois sous forme de Lian Huan Hua dans une valise. Parce que vous comptez, il y avait environ 30 volumes par coffret. Donc 30 fois 4, ça fait 120. Il est même possible qu'ils en aient fait plus. Donc c'est logique qu'on ait un format complètement atypique. Format à l'italienne la plupart du temps, qui plus est. Maintenant, dans le cas des éditions Patayo et dans la collection Des cases des langues des mondes, notre premier livre, c'est Des assassins par Chen Wen. Chen Wen, c'est le maître de la bande dessinée, du graphisme à Taïwan. C'est quelqu'un qui a quand même été exposé au palais de Taipei, qui est l'équivalent du Louvre à Taïwan. Et donc, il fallait absolument le porter de la manière la plus belle possible. On avait bien vu les éditions taïwanaises, et puis un essai d'édition de Taïwan en anglais pour promouvoir à l'international Chen Wen, mais il y avait besoin de quelque chose qui marque, et j'ai été ravi, ô combien ravi de ce bouquin qui est magnifique.
Pour entrer dans le livre, est-ce que vous pouvez nous raconter grosso modo quelle est l'histoire racontée par ce volume Assassin? Parce qu'on a aussi le sentiment, quand on a ce volume entre les mains, de découvrir un morceau de la culture du monde qui nous est, pour l'instant, assez inaccessible. Vous arrivez à nous à apporter en Europe, on va dire, des romans épiques, des romans de chevalerie, des romans d'aventure qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut connaître dans la littérature médiévale, mais qui, en même temps, est totalement...
Bah, c'est un peu l'enjeu de la collection des cases des langues des mondes, c'est de se dire... La bande dessinée est maintenant un média universel qui est partout. Mais par contre, chaque auteur, de par sa culture, son pays d'origine, etc., va interpréter et travailler la bande dessinée d'une certaine façon. Et Des Assassins rentrent parfaitement dans ce cadre-là. D'une part, une virtuosité graphique qui est liée à un travail du pinceau, des encres, qui s'appuie sur un travail graphique traditionnel chinois. Et en plus, on a un corps d'histoire qui est un récit. Par contre, c'est extraordinaire dans le travail de Chen Wen, fait une traduction en fait en image d'un récit historique qui a été écrit il y a 2200 ans par Sima Kal, le premier historien chinois. Et bien, c'est que par sa mastéa graphique, on peut s'échapper de ce corpus historique et le voir, comme tu disais, des aventures de chevaliers, d'épées, c'est d'ailleurs le terme fuxia qui est expliqué par Marie-Laurien en préface, et qu'on peut retrouver, qu'on a tous vu en fait, plutôt au cinéma, que l'on connaît par les films de Kung Fu, les poignards volants, etc. Et ça, c'est la force de ce livre-là. Et...
Ce qui a été, en fait, le wuxia, donc qui est l'objet de l'exposition actuelle au Quai Branly, hein, l'ultime combat, tout ce genre qu'on dit arts martiaux chez nous, et ben à l'origine c'est un texte deux fois millénaire, et c'est ce texte qui est mis en image par par Chen Wen, là où on a été très surpris avec la, on pensait qu'il s'agissait d'une adaptation, et quand on a reçu la traduction, on a été très surpris de constater que c'est le texte en lui-même, comme c'est un texte qui est déjà dialogué, c'est comme si on transposait Hérodote mot à mot, en bande dessinée, et ça, je pense que ce serait beaucoup plus difficile. Mais ça peut se lire comme un récit d'aventure, les exploits de différents chevaliers à travers l'histoire chinoise et l'histoire antique, hein, c'est-à-dire entre le 10e siècle et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais après, on découvre qu'on a entre les mains un document, un vrai document historique.
On est vraiment frappé dans ce très bel album, dans un grand format en couleur, il faut, faut aussi le préciser. Donc, vous l'avez dit, par la qualité extraordinaire du dessin, mais par aussi par le dynamisme du dessin. Donc, comme tu disais, Frédéric, ça se rapproche de la calligraphie. Et moi, j'ai été très frappé aussi par la qualité à la fois du découpage et la qualité du changement incessant des points de vue. Un peu comme dans on sent un peu l'influence du manga, mais c'est une virtuosité de construction que je retrouve très rarement dans la BD européenne.
Déjà, la technique du travail au pinceau avec les encres, qui est une approche, et la façon dont il a travaillé avec une approche très calligraphique. La calligraphie, c'est comment arriver à faire un trait qui représente le mouvement et qui garde le mouvement. Parce que le paradoxe que l'on a dans le travail de Chen Wen, c'est qu'il a figé par de l'encre un dessin, un mouvement, une atmosphère, mais on a l'impression que ce mouvement n'est pas arrêté et qu'il suffit juste de regarder pour que le mouvement se remette en marche. On a aussi quasiment la façon dont il travaille les combats, dont la façon dont il travaille aussi la mise en scène de ses personnages. On a l'impression d'être dans de la chorégraphie. On est dans de la chorégraphie d'art martial. Les blancs, les couleurs, les noirs, tout ça fait que voilà, on est dans quelque chose qui ne s'arrête jamais. On regarde une image, mais qui bouge par elle-même. Et en effet, toute la succession des plans, où de temps en temps, on a un plan rapproché, un plan en contre-plongée, etc. L'œil ne fait que de bouger dans tous les sens. Et quand Laurent m'a présenté Chen Wen pour la première fois, moi, j'avais aucune référence personnelle sur le style fuchsia. Et je pensais que j'avais en face de moi des histoires au même titre que ce que j'avais pu connaître aussi sur les poignards volants, etc. J'avais complètement oublié qu'on était sur un récit historique sérieux. Et donc on a un saut entre de l'aujourd'hui dans le dessin et puis cette histoire doit nous permettre, nous aussi, lecteurs français, de découvrir un pan de la Chine que l'on ne connaît pas. Je ne savais même pas qu'on disait la Chine antique. Voilà.
Et moi, je pense que Chen Wen, c'est la synthèse de la peinture traditionnelle asiatique, chinoise. C'est la synthèse des arts contemporains et du cinéma, et notamment du cinéma de King Hu, qui est le grand cinéaste d'arts martiaux taïwanais. C'est-à-dire qu'il varie les plans constamment, comme tu l'as dit, Stéphane. Mais en même temps, dans chacune de ces cases, il y a de l'art abstrait, et il y a de l'hyper-réalisme. Et ça, c'est à peu près unique en bande dessinée.
J'ai une autre question sur tous ces dessinateurs, parce qu'on va parler donc on a parlé de Chen Yuan, qui vient de Taïwan, on va parler de Li Ziwu et de Meng Xiaoyan, qui sont chinois, ou de Kong Qinglao, qui lui vient de Hong Kong. Quelle est la différence de statut entre tous ces auteurs et la réception de leurs œuvres dans leurs pays respectifs?
C'est extrêmement varié. C'est déjà en Occident, c'est assez difficile de parler du statut de l'auteur de bande dessinée sur l'ensemble des pays européens et américains. Donc pour l'Asie, c'est à peu près la même chose. Alors en Chine continentale, les auteurs de bande dessinée de Lian Huanhua, hein, plus que de Manhua, qui est proches de la bande dessinée telle que nous la concevons, sont considérés comme des grands artistes, ou du moins étaient considérés comme des grands artistes, et plus comme des peintres que des dessinateurs. C'était pour certains des dessinateurs, des peintres officiels. D'ailleurs, ça arrivait qu'ils fassent aussi les portraits des grands dignitaires du pouvoir. Pas tous, hein. Mais voilà, c'est un peu ce cas-là. Bon, Li Jiuwu, qui est le dessinateur de Kinopera, lui, il a vraiment un statut complètement à part, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille entre guillemets en amateur, qui fait du travail professionnel en amateur. Il a un vrai travail, c'est-à-dire qu'il travaille pour une compagnie d'assurance, et le soir il se livre à sa création, ce qui fait qu'il a 60 ans. Et en 40 ans d'activité dans la bande dessinée, il a produit 3 grandes œuvres. Donc c'est un auteur à la fois rare et à la fois libre de s'exprimer, puisqu'il ne dépend pas de son art pour vivre.
Alors on va justement parler de Kinopera. Kinopera se présente sous la forme d'un Leporello. Donc le Leporello, c'est une grande bande, un livre en accordéon. Frédéric, quand Laurent t'amène ce projet, quelle est la réaction de l'éditeur que tu es devant cet ovni?
Ah ben, je dis waouh. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Zibou a fait une œuvre en une seule image, et l'œuvre originale fait 72 mètres de long sur 40 cm de haut, en noir et blanc, au pinceau, sur un papier de riz, juste pour qu'on puisse se donner quand même un ordre d'idée, c'est aussi grand que la tapisserie de Bayeux. Voilà. Et Lizibou a mis 4 ans à peindre, moi je n'étais pas dessiné, à peindre cette image-là, accompagnée par Meng Saoyan, qui elle est cinéaste et photographe, et il l'a accompagné en fait par rapport à la question de la mise en scène. Elle amène en fait tout son savoir du mouvement, de la scénarisation, du jeu des acteurs, et puis j'ai envie de dire quasiment on est en face d'un grand travelling, mais sauf que c'est un grand travelling temporel. On a emballé un an d'une histoire sur 72 mètres de long. Donc voilà, comment faire quand on est jeune éditeur et qu'on a cette image-là, cette œuvre-là entre les mains, qui m'a intéressé tout de suite, quoi. Et bon, bah voilà, on s'est dit, on va se donner les moyens de pouvoir transformer cette œuvre en livre. Et j'ai la chance de pouvoir être accompagné par Grégoire Boringer, qui travaille dans le livre d'art, qui avait déjà travaillé sur un Leporello pour la fameuse tapisserie de Bayeux, et qui m'a dit, mais non, mais ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Même si quand on le déplie, il fait 20 mètres de long, et que je mets quasiment au défi les personnes de trouver les raccords sur l'image, que ce soit les raccords de fabrication de feuilles en papier, et voir les raccords d'images qui ont été scannés. Et donc on est parti dans cette direction-là, et puis il y avait aussi cette envie. Et ça, c'est une demande que l'on a demandé que l'on a portée à Lizibou, c'est de dire l'image en tant que telle force que chacun peut amener sa propre histoire et inventer sa propre histoire, mais il nous semblait important que lui-même puisse nous accompagner avec un texte qui participe en fait à la découverte générale de cette vie de village de la Chine de l'Ouest. Et donc on a un jeu, un dialogue qui est instauré entre une image, un texte qui était au départ chinois, traduit par Marie Rillard, et puis adapté et un texte qui donne envie par lui-même de pouvoir et donne envie de continuer à découvrir ces personnages. C'est tant mieux, fallait que le texte soit en résonance avec l'image qui était au-dessus, de pouvoir recondenser et tirer le texte en français pour que lecteur, quand il tourne les pages, parce qu'un Leporello, on peut tourner aussi les pages, puisse lire un texte, relever les yeux, voir une image, se dire ah oui, c'est voilà ce que j'ai lu, ou au contraire ah voilà qu'est-ce qui se passe, de poser le regard sur le texte et de s'apercevoir qu'on a une concordance, une connexion qui se met en place. Donc il y a eu un énorme travail éditorial plus un énorme travail de fabrication pour un livre qui, par la qualité de son façonnage, par la qualité du papier qui a été utilisé, par les encres qu'on a utilisées, parce que même si on est en noir et blanc, on a rajouté une couleur complémentaire, un Pantone, de façon à rehausser l'image originale, et on a un livre, quand on le déplie, qui marque son effet. Moi, je me dis, on n'a pas loupé notre coup. C'est-à-dire que l'œuvre qui arrive sur le livre, elle devient elle-même une œuvre offerte à des...
Laurent, on connaît, moi je connais, donc il y a le grand Leporello qu'a fait Joe Sacco sur la bataille de la Somme. Il y a aussi des grands panneaux peints, des panneaux impériaux chinois qui font quelquefois 12 ou 15 mètres de long, qui racontent des épisodes souvent guerriers ou protocolaires de la vie des empereurs chinois. Est-ce que Lizibou s'inscrit dans cette tradition ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de très différent?
Oui, il se la réapproprie en même temps. C'est-à-dire que, bon, on connaît la tapisserie de Bayeux, on connaît d'autres tapisseries comme ça sur un grand panorama en Occident et qui ont une charge narrative importante. Cela, c'est aussi une constante dans les arts asiatiques. Le grand classique de la peinture sur rouleau date à peu près de la même période que la tapisserie de Bayeux, mais la plupart du temps, il s'agit d'instantané. C'est-à-dire que on est là pour décrire une ville lors d'une fête, lors d'une cérémonie. C'est plutôt au Japon qu'on utilise le rouleau pour porter une narration. Et là, Lee Jae-woo a fait quelque chose de tout à fait unique. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ces deux œuvres précédentes, c'était toutes les deux des adaptations de romans se déroulant dans sa province natale, du Shaanxi. Et donc, sa troisième œuvre, ça faisait très longtemps qu'il voulait porter, adapter le roman de Japinois King Opera. Il a décidé d'une rupture brutale. Et de trouver une autre voie pour s'exprimer. Et son style graphique en lui-même en a été affecté, parce qu'il avait un style beaucoup plus réaliste, proche de Baudouin, disons, pour trouver un équivalent parmi les auteurs connus ici. Et ça a donné ce rouleau de 70 mètres.
On va raconter un tout petit peu l'histoire de King Opera, parce que c'est une histoire très complexe, ouais. Donc qui se déroule sur 20 mètres. Je vais aussi parler de l'expérience de lecture qu'est-ce Leporello après. Moi, j'ai vu dans King Opera à la fois une histoire d'amour, une espèce d'enfant sauvage qui est à la recherche d'une cantatrice d'opéra, mais il y a aussi un côté beaucoup plus dramatique, parce que c'est une société rurale, un petit village imaginaire, qui va être peu à peu détruit par la modernité au sens large et au sens négatif du terme. Comment une telle œuvre, parce que c'est aussi une critique politique, comment une telle œuvre est passée dans le tamis de la censure chinoise?
Je pense que l'œuvre, elle a la chance, c'est que l'œuvre, déjà, elle est éditée par un éditeur français. Donc tout travail éditorial, on l'a pu faire ici, en France, en relation avec Lee Jae-woo à Pékin et puis Matsao Yan à Vienne. L'impression de ce livre-là, c'est via Hong Kong en Chine. Il faut savoir que l'imprimeur nous a demandé d'avoir l'œuvre en préalable pour vérifier qu'il avait la possibilité de pouvoir l'imprimer pour nous. Donc on voit bien qu'il y a quand même un regard assez fort qui est porté en Chine sur les œuvres qui peuvent être imprimées, mais nous, on a eu cette chance de pouvoir pouvoir offrir un livre en français à partir d'une œuvre chinoise et un travail collaboratif entre les Chinois et les Français pour un livre français qui va peut-être un jour arriver en Chine. Lee Jae-woo cherche et travaille de son côté pour éditer son livre en Chine en chinois. Là, il a quelques difficultés manifestement par rapport à ça.
Il cherche la bonne solution pour pouvoir l'éditer en Chine et le présenter en Chine. Il faut dire que le roman original, lui, a eu il y a maintenant plus de 15 ans, le prix Mao Dun, il y a même peut-être plus de 20 ans, donc qui est l'équivalent du Goncourt en Chine, que c'était une œuvre qui était considérée pendant très longtemps, et puis petit à petit, mais c'est le cas des deux autres romans qu'il a adaptés, hein, petit à petit, on la voit un peu moins en bibliothèque, on en parle un peu moins, et c'est sûr que il y a une critique de la politique, et là de la politique au sens large, de la vie dans la cité, dans King Opera, et que cette critique qui était peut-être admise il y a 20 ans, l'est beaucoup moins. Du moins, est plus embarrassante en Chine. Oui, vas-y Frédéric.
Ouais, ce que je voulais dire aussi, c'est que, en effet, on parle beaucoup de Chine. Moi, j'ai envie de réélargir un peu le propos. Je pense que l'œuvre que nous présente Lee Jae-woo et Matsao Yan, c'est en fait le télescopage de la modernité, de la tradition dans un village rural. Et en fait, il y a énormément de résonance par rapport à ce qu'a pu être vécu, par exemple, dans les campagnes françaises dans les années 50, avec l'arrivée de la mécanisation, qui a bousculé la hiérarchie sociale au sein des structures politiques des villages, remis en cause aussi la question patriarcale qui pouvait exister, et y compris jusqu'à une réinterrogation assez forte du rôle des femmes, et ben ce que l'on a dans Kini Para, ben, c'est exactement la même chose, sauf que ça se passe pas chez nous, mais là-bas. Mais en même temps, ça peut nous parler chez nous.
Ça nous parle même aujourd'hui, hein, parce qu'il est question de l'emploi des terres, c'est-à-dire qu'on est entre des paysans traditionnels pour qui chaque centimètre carré de terrain doit servir à nourrir la population, et des modernes pour qui il faut aller un peu au-delà et penser aussi au commerce et au confort de chacun. C'est un débat qu'on a rencontré, ben, puisque les éditions Patayo sont à Nantes au sujet de l'histoire de l'aéroport, ou même aujourd'hui en région parisienne sur les dernières terres agricoles d'Île-de-France qui visiblement vont avoir du mal à cohabiter avec le Grand Paris.
Par contre, la force de l'ISIOU, bah, c'est aussi de nous amener cette réflexion, mais par un regard un petit peu de la farce. Le personnage principal, le narrateur, on pourrait l'appeler le bonnet du village, le fou du village, mais en même temps, c'est ce qui lui permet de libérer la parole, de pouvoir dire des choses que les autres ne peuvent pas dire et mettre le doigt sur quelque chose qui est là. Et en même temps, on est un peu dans une farce de temps en temps grotesque, et même dans la façon dont il dessine, on a l'impression d'être en face de dessins de Bruel, où bah, chaque personnage est vraiment bien catégorisé, c'est la façon dont il est en relation avec les autres, enfin voilà, et quand on regarde ça, bah, on a l'impression d'avoir en fait un extrait cinéma, un petit documentaire qui est en train de se passer sous nos yeux, puis après, pouf, ça y est, on repart dans une autre dimension.
Ouais, parce que l'œuvre graphique, donc le dessin est extrêmement virtuose, c'est même assez troublant, parce que moi je l'ai lu deux fois, et au bout du compte, on sait jamais vraiment si on l'a fini ou si on l'a commencé, on sait jamais trop où on en est dans la lecture, donc le dessin est virtuose. C'est un dessin extrêmement détaillé, il y a plein de petits animaux, de scènes de la vie quotidienne de ces villages, et tout ça fait une sorte de lecture un peu vertigineuse, parce qu'au bout du compte, on sait plus si c'est le livre qui bouge devant le lecteur, si c'est le lecteur qui bouge devant le livre. On passe sans cesse d'un texte très littéraire, je trouve que la traduction est vraiment, vraiment remarquable, à un dessin, le rapport entre le dessin et le texte. C'est vraiment une expérience de lecture, ce Leporello.
Merci. Merci de ce commentaire, parce que tu es le premier à nous faire un commentaire sur le texte. On est parfois, on se dit, effectivement, on arrive avec un livre dont la forme est complètement hors norme, mais un récit très fort. Et on voudrait pas que la forme mange le fond. Mmh. Les deux sont, c'est tout comme pour des assassins. On est quand même sur plusieurs angles d'appréciation de ses œuvres. Mmh. Et on espère que les gens seront également portés par ce texte et par ce récit.
Et en plus, on a eu la chance, parce que, en fait, c'est les contraintes aussi, mais qui nous amènent à un travail spécifique, c'est que le texte peut être plus ou moins condensé par page, et donc a permis à la graphiste de pouvoir jouer avec, de pouvoir jouer sur la façon dont elle pouvait même faire descendre ses textes, de ramener des blancs, et donc quelque part, même dit que l'ISIOU amène des blancs dans son travail au noir, au pinceau, et ben nous on a eu la chance de pouvoir ramener des blancs dans le texte tout le long du livre, ce qui fait qu'on n'est pas en face comme un livre de roman où on a une continuité typographique. Là, on a aussi un rythme typographique qui se fait aussi en résonance, aussi bien soit-il, avec l'image qui est au-dessus. Donc, on a quelque chose qui est global et qui fonctionne, pas trop mal, on dirait, manifestement.
Oui, oui, ça fonctionne bien. Le temps passe et il faut qu'on évoque le dernier album dont j'avais envie de parler. D'ailleurs, on entend là une musique qui démarre. Parce que ce petit album s'appelle Fantaisie Ordinaire, c'est dans la collection des petits pataillots, donc physiquement c'est beaucoup moins imposant que Kin Opera ou Des Assassins, mais c'est pas moins intéressant. Fantaisie Ordinaire, c'est dessiné par Kong Ching Lau, qui est donc un auteur de Hong Kong, et surtout c'est une bande dessinée sans texte, mais avec une bande musicale originale, composée par Victor Boutzelaar. Frédéric, comment tu as eu l'idée ou l'envie de publier un tel livre?
Ce livre-là, c'est le livre du, du hasard et des rencontres. Alors, je sais qu'on parle beaucoup des rencontres, c'est un peu à la mode, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Il faut imaginer qu'il y a deux ans, trois ans maintenant, je suis allé pour la première fois de ma vie à un salon de bande dessinée, un festival, c'était le festival d'Angoulême. J'avais idée de Bataillot Édition et surtout j'avais idée du format sur lequel je voulais démarrer ma maison d'édition, donc le format de Yann Moinois, le roman de poche, d'une case par page, 10 par 15, que l'on peut porter avec soi. Et je suis allé faire un tour dans les salons des droits internationaux, et là il y avait un stand du centre culturel de Hong Kong avec des personnes, et moi je suis allé un petit peu au culot en leur disant bah voilà, moi je suis éditeur français, j'aimerais travailler avec un auteur de Hong Kong dans le format des petits patates. J'ai fait la même démarche avec tous les centres culturels qui étaient présents, et les seuls qui ont dit banco, c'est-à-dire fait confiance à une jeune maison d'édition, ça a été le Centre culturel de Hong Kong, et qui m'a mis en relation avec Kong Xinglo, qui est un auteur d'une trentaine d'années, qui est un auteur très très particulier, parce qu'il dessine, et il a travaillé aussi sur du jeu vidéo. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la qualité de son dessin, c'est aussi son approche très cinématographique. Et en fait, le fantasy ordinaire qu'il m'a proposé, les 92 cases, on a l'impression de suivre un plan caméra, un plan séquence de caméra. Sauf que lui, il voulait pas faire de texte. Sauf que le concept des petits pataillots, c'était d'avoir un texte. Et je lui ai dit, moi, j'ai une petite musique qui est venue en regardant vos images. Pourquoi on ferait pas une composition musicale? Et là, il m'a dit, oui, c'est une très bonne idée. Ça tombe bien. J'ai travaillé pour un jeu vidéo avec Victor Buslar, qui est à Amsterdam. Et Victor, enchanté, il a dit on y va. Donc on a un livre assez étrange où on a un travelling graphique en face des yeux. Et pour ceux qui savent la musique, faire du piano, et ça peut, manifestement ça joue aussi au violoncelle, et on a une partition pour main droite et main gauche sur chaque double page qui nous permet de dérouler le son, que la musique que l'on a vue tout à l'heure à l'antenne. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et en même temps c'était aussi pour moi une façon de montrer que malgré ce format très imposé, il y a Noir qui oscille entre livre illustré, bande dessinée, on ne sait pas trop où le poser, en fait on a une possibilité de pouvoir inventer, de raconter des histoires d'une autre façon. Et c'est vrai que depuis le début, je garde en tête que une case, plus une case, plus une case, plus une case, quand vous en mettez 24 cases, vous passez ça en une seconde, c'est de la mort du cinéma. Donc en fait, quelque part, cette logique-là a arrivé à une fantasy ordinaire. Et le terme fantasy est un terme de musique qui est une partition musicale qui est faite sans véritablement d'indication. Donc voilà, on a un petit livre musical. Je crois qu'on m'a dit que c'était le seul qui ait pu être fait dans de cette façon-là, en tout cas.
Je crois, Laurent, toi qui es le grand historien de la BD de cet entretien, est-ce que tu connais d'autres livres avec des bandes originales comme ça, musicales?
Honnêtement, non. J'en ai pas qui me viennent à l'esprit comme ça. Je me souviens de bandes dessinées avec des bandes... Des bandes sont possibles, indiquées par l'auteur, des choses comme ça. Mais je suppose qu'il, notamment avec le multimédia, il y a eu déjà des tentatives ou des réalisations. Il y en a dans le webtoon, oui. Dans le webtoon, on a parfois une sonorisation qui intervient lorsqu'une case débarque à l'écran. Donc le webtoon, c'est ces bandes dessinées coréennes qui se lisent sur écran, et notamment sur smartphone, qui commence à devenir assez courante en France également. Sinon, dans l'histoire plus ancienne, je ne connais pas d'exemple précis.
Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Pour la petite histoire, on a dû réenregistrer l'interview parce qu'on avait un petit problème technique. Donc, un immense merci pour votre disponibilité. Je vais rappeler les titres et les auteurs. Donc, le premier, c'est Des Assassins. C'est un magnifique album grand format dessiné par Shen Yuen. C'est donc les éditions Pataillot et c'est au prix de 30 euros. Le deuxième, qui est vraiment pour moi un vrai chef-d'œuvre de l'art contemporain, voilà, de la bande dessinée, c'est Kin Opera. C'est dessiné par Li Ziwu et raconté par Men Xiao Yuan. C'est toujours par Pataillot et c'est au prix de 35€. Et enfin, le petit ovni Fantaisie Ordinaire, dessiné par Kong Qinglo et mis en musique par Victor Boutsellard, et évidemment toujours chez Pataillot, dans la collection Petit Pataillot, et c'est au prix de 10€. Voilà, bah, je vous remercie tous les deux. Frédéric est en direct du salon SoBD, donc bah, je te souhaite une bonne fin de salon. Et Laurent, je te dis à bientôt.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh.